RCF. Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce vendredi pour vous accompagner jusque 19h, 50 minutes de bonheur à passer ensemble avec notre stagiaire à la rédaction Marion Yernard. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Alors t'as prévu d'aller faire la fête ce soir, mais avant cela on va te garder quelques minutes avec nous et on te retrouvera notamment à l'intérieur du journal régional de 18h30 avec les tendances météo. Est-ce qu'il va faire beau ce week-end ?
Pas spécialement, franchement, on a vu mieux.
Coussi, coussa, quoi, comme on dit. Dans quelques instants, on retrouvera également le professeur Jacques Cohen qui nous parlera de l'Ukraine et des quatre lignes occidentales. C'est donc sa chronique d'actualité. On va être en ligne avec lui d'ici quelques secondes. On ira faire un tour en deuxième partie d'émission du côté du phare de Verzenay avec la directrice du lieu, Frédéric Pinchon. Nous serons également avec Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Il était cette semaine du côté de Lourdes à l'Assemblée plénière des évêques de France, vous le savez, qui se réunissent deux fois par an. Ça sera l'occasion notamment d'entendre son ressenti sur ce rassemblement. On vous présentera la ferme des Crayères avec Émile et Romain qui cultivent la pomme de terre du côté de Fère Champenoise. Et puis un maire qui nous parle, là ça sera avant le journal, ça sera dans quelques minutes, Christophe Corbeau et l'édile de Verzy dans la Marne. Il nous présentera lui aussi sa commune. Comme tous les vendredis, c'est le professeur Jacques Cohen qui commence par donner le tempo. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous voulez nous emmener en Ukraine pour parler des quatre lignes occidentales avec une position de l'Union européenne jusqu'au boutiste dans un premier temps sur un sujet bien précis. Professeur, qu'est-ce que vous voulez développer dans un premier temps ?
Eh bien, il est assez spectaculaire que non seulement les actifs russes en Occident ont été immobilisés, ceux de la Banque centrale, les actifs d'État, mais que là, l'Union européenne annonce sans complexe qu'elle va commencer à en distribuer directement aux Ukrainiens, c'est-à-dire de piquer de l'argent aux Russes pour le donner aux Ukrainiens en clair. Il faut voir que l'échelle n'est pas négligeable. En Europe, il y a environ 200 milliards d'actifs de la Banque centrale russe sur 600 au total en Occident. Et tandis que les États-Unis sont plus prudents sur le sujet, les Européens commencent une tactique assez tarabiscotée consistant à ne pas distribuer directement cet argent aux Ukrainiens, mais à distribuer une partie des intérêts à travers une chambre de compensation qui est, je crois, Euroclear, qui, au passage, réclame une quinzaine de pourcents de ce qui va être distribué pour couvrir ses risques juridiques, ce qui est quand même assez symptomatique. La Banque centrale est archi-compte, bien sûr, parce que c'est la meilleure façon de ruiner le crédit de l'Union européenne comme refuge financier. Si tout pays qui apprend qu'on peut lui piquer son fric s'il le met en Europe, évidemment, eh bien, ne mettra plus son argent en Europe. C'est quand même une ânerie monumentale de ce point de vue-là. On ne voit pas très bien quel est le niveau d'urgence, à part une certaine vindicte qui oblige comme ça à distribuer 5 milliards, puisque c'est la somme en jeu dans un premier temps, avant probablement d'aspirer les 200 milliards. Quand ces chiffres-là, on ne sait plus bien ce que c'est, mais pour donner un ordre de grandeur, 200 milliards en Europe, un peu plus de 200 milliards en Europe, 600 et quelques au total, le budget de l'État est, lui, de l'ordre de 450 milliards. Donc vous voyez, c'est quand même notre budget annuel à peu près est au milieu de la fourchette. C'est quand même spectaculaire. Mais ceci nous conduit à regarder avec un peu plus de recul les quatre lignes occidentales concernant cette guerre en Ukraine. Il y a celles qui sont favorables à la position russe, ceux qui acceptent la victoire russe éventuelle. Il y en a deux, et ceux qui la refusent, il y en a deux également. Ceux qui l'acceptent, tout d'abord, il y a ceux qui sont idéologiquement d'accord avec le leader de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, c'est-à-dire sur une ligne de l'Occident chrétien, de la décadence des mœurs, etc. Ceux-là pensent que, de toute façon, une influence russe sur l'Occident européen serait une façon pour eux d'avoir un puissant soutien contre ce qui les inquiète dans l'évolution des sociétés occidentales. Ou heureusement pas très nombreux. La deuxième ligne est un peu plus compliquée. Elle est de considérer que, finalement, Angela Merkel avait raison, de même que Willy Brandt. C'est-à-dire qu'obtenir une modification en profondeur de la Fédération de Russie, ça ne peut se faire que, pour, dans leur raisonnement, que par l'intensification des échanges économiques, l'économie finissant par gouverner l'idéologique, de la même façon que Willy Brandt avait obtenu la déliquescence de l'Allemagne de l'Est par l'accentuation des échanges commerciaux et de personnes d'ailleurs aussi avec l'Allemagne de l'Ouest. Donc cette ligne implique de dire que finalement, il faut que la Russie peut bien revenir à la frontière impériale précédente que celle de la guerre froide, c'est-à-dire revenir à la guerre froide. En quelque sorte, cette ligne est de rejouer le match. On avait gagné la guerre froide, on peut en faire autant. Mais là, il y a eu un incident, c'est-à-dire que après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie s'est rétractée, on a continué à pousser à son atrophie, et que c'est une mauvaise chose, parce que c'est un partenaire inéluctable pour l'Union européenne, et que si on la laisse remonter à ses frontières précédentes, on pourra recommencer à la miner comme on l'avait fait dans la guerre froide précédente, et la gagner de la même façon. Ces gens-là ajoutent aussi un point qu'on va retrouver dans l'une des deux lignes soutenant la guerre des Ukrainiens, c'est que la Russie comme puissance régionale est indispensable si on ne veut pas avoir une balkanisation des Balkans justement jusqu'au bout de l'Asie centrale avec des guerres interminables dans le Caucase, en Asie centrale et en Europe hélas, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'en disparition de la puissance régionale Fédération de Russie, les relations par exemple polono-ukrainiennes resteront longtemps pacifiques. Donc ça, ce sont les deux lignes qui étaient en quelque sorte des partisans de laisser les Russes gagner en Ukraine. Et il y a deux lignes de ceux qui pensent qu'il faut empêcher cette victoire. Alors l'une, malheureusement, est celle qui soutient la ligne de la direction ukrainienne et qui semble peu à peu avoir envahi l'Union européenne. C'est celle qui considère qu'il faut faire la guerre à la Fédération de Russie jusqu'à sa défaite et qu'après on pourra rebâtir. C'est celle défendue par les Baltes et par les Ukrainiens, mais elle a l'inconvénient qu'il n'est possible qu'à travers une guerre mondiale, ou du moins une guerre très sévère en Europe, dans laquelle nous serions impliqués, y compris sur notre territoire, elle aboutirait à la même chose que cité précédemment, c'est-à-dire à l'instabilité régionale durable, et d'autre part, elle sera très coûteuse, parce qu'actuellement, les Russes, y compris, à mon avis, la majorité ou la moitié des Russes qui considèrent que Poutine a fait une énorme connerie, considèrent aussi qu'ils sont obligés de le suivre maintenant, parce qu'ils sont menacés de destruction pure et simple par les Occidentaux qui en profitent. De ce point de vue-là, on peut dire que les Ukrainiens ont été les meilleurs propagandistes de Vladimir Poutine pour sa réélection en attaquant systématiquement sur le territoire de la Fédération de Russie, y compris en profondeur. Et accessoirement aussi par quelques provocations, comme le fait d'avoir soutenu un résidu fasciste pro-nazi ukrainien, M. Humka, au Canada, alors qu'il n'a pas été difficile pour les Russes de retrouver rapidement que son unité était responsable de massacres, non seulement de Juifs, mais de Polonais, pendant la guerre. Donc, tout cela est une ligne d'escalade, mais surtout une ligne vers un coût totalement déraisonnable de cette guerre en Ukraine, de notre point de vue. Alors, l'autre ligne, soutenant l'Ukraine, c'est qu'il faut empêcher l'effondrement de l'Ukraine par tous les moyens militaires, mais il faut aussi donner un signal à la population russe, pas à Vladimir Poutine, qui est que nous ne voulons pas mettre un pied en Fédération de Russie et nous ne voulons pas non plus que nos armes soient employées sur les territoires de la Fédération de Russie. C'est déjà ébréché ça parce que les Ukrainiens ont eu des patriotes qui commencent à tirer au-dessus du territoire de la Fédération de Russie, c'est-à-dire des missiles américains. Alors pour l'instant, ce n'est pas ceux que les Américains leur donnent, mais c'est ceux que les alliés européens, partisans de cette ligne, ont donné aux Ukrainiens. Mais de toute façon, c'est extrêmement dangereux, non pas parce qu'il faut, je veux dire abstraitement, avoir peur d'une escalade, mais parce que c'est la meilleure façon de souder la population russe pour une guerre extrêmement coûteuse et extrêmement longue, et qui, à mon avis, est totalement déraisonnable. Si l'on donne assez de moyens à l'Ukraine pour lui éviter l'effondrement, eh bien, il s'agit de rendre la guerre en Ukraine le plus coûteuse possible pour la Fédération de Russie, ce qui conduira à la fragmentation de l'opinion publique et à la perte de pouvoir par Poutine ou par son successeur, Poutine ayant quand même un âge où des choses peuvent arriver, puisque vous me direz d'ailleurs que ça pourrait avoir des misères plus jeunes, comme c'est arrivé à maintenant à Navalny. Et donc, cette ligne de soutien ferme à empêcher que la guerre soit totalement gagné par les Russes en Ukraine, pourrait avoir comme efficacité le délitement de la société, du monde politique russe, et on voit que l'aventure de Prigogine montre que ce monde politique n'est pas aussi monolithique et aussi indestructible que certains le prétendent pour dire la seule solution c'est de faire la guerre jusqu'à pouvoir défiler sur la place rouge. Eh bien, malheureusement, alors que le président français avait en quelque sorte une ligne qui était plus proche de cette quatrième ligne que de la troisième, depuis ces déclarations et l'absence aussi de déclarations concernant les surenchères européennes, eh bien, on a l'impression que la France s'aligne sur la ligne jusqu'au boutiste, ce qui serait une très mauvaise chose de mon point de vue.
Merci, professeur Jacques Cohen, de nous avoir éclairé. Ça sera le mot de la fin. Et si vous avez plus d'informations à développer, nul doute que vous le ferez dans les prochains jours sur votre blog jhmcohen.com. À très bientôt, professeur.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et désormais, à 18h21, un maire qui nous parle ce soir avec Jean-Pierre Benoît. Avec qui êtes-vous, Jean-Pierre ?
Et notre maire aujourd'hui est Christophe Corbeau. Il est maire de Verzy, dans le département de la Marne. Christophe Corbeau, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, vous êtes le maire de Verzy. Alors Verzy, c'est combien d'habitants aujourd'hui ?
Alors le recensement est dû l'année dernière. Verzy est à 980 habitants. Alors on fluctue avec autour de 1000, puisque hélas, la population évolue. Le village est un bourg et on est à 1000 habitants, quoi, on va dire. Ça dépend des membres, des recensements.
Alors, monsieur le maire, on va parler bien sûr des fautes de Verzy qui sont, j'allais dire, presque mondialement connues. Mais vous êtes maire depuis combien d'années, monsieur Corbeau ?
Alors, j'ai commencé il y a. C'est mon cinquième mandat. Mais j'ai été maire deux mandats. Donc, c'est mon deuxième mandat de maire.
Quand on parle de Verzy, est-ce qu'il y a un renouvellement de la population ? Est-ce que vous accueillez peut-être des jeunes ménages, des jeunes couples qui renouvelleraient un petit peu le village ?
Verzy a la chance d'être entre Reims et Chalon et en plus a la chance d'avoir beaucoup de locatifs. Donc c'est vrai qu'il y a des jeunes qui viennent s'installer puisqu'il y a Pluriel, Reims Habitat sont sur Verzy, la commune a un peu de meublé et du coup c'est vrai qu'on a de la rotation, on n'a pas que du sédentaire, c'est vrai que on a la chance d'avoir ces locatifs qui nous permettent de renouveler notre population régulièrement. Ça vit quand même à Verzy.
Quand on parle de Verzy, on pense Champagne, mais je me trompe peut-être, mais quand même, Verzy, Champagne, ça va ensemble.
Alors il y avait un slogan, Verzy, c'est faux, c'est vignoble. Alors on peut toujours le conserver, puisque oui, Verzy est collé à la forêt sur le côté ouest, et à l'est, ben, son vignoble. Donc oui. Verzy est bien niché entre sa forêt, donc les faux, bien sûr, puisqu'on a un site remarquable, une forêt d'exception, maintenant classée forêt d'exception par l'ONF, et en même temps, de l'autre côté, son vignoble en grand cru, donc qui correspond à une quarantaine d'exploitations viticoles.
Et on sait que ça marche bien en ce moment, on espère que ça va bien marcher encore pour la prochaine vendange, mais en ce moment, ça tourne bien dans le monde du vignoble.
Alors, ce n'est pas les viticulteurs qui peuvent être en première ligne, du moins surtout pas les nôtres, par chez nous en Champagne. Il y a quelques critères administratifs à supprimer, mais ça sera les seules revendications. Je pense que sur le reste, la Champagne va bien, oui.
Monsieur le maire, vous avez évoqué à plusieurs reprises déjà les faux de Verzy. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, elle est classée. On vient de loin pour voir ces faux.
C'est vrai que les gens appellent pour savoir s'ils peuvent venir visiter. Alors, c'est une forêt Ménial, donc l'accès est libre, donc il y a différents parkings gérés par l'ONF, et donc le site a été raménagé pour préserver les faux au piétinement, donc il y a une grande balade autour des faux qui a été requalifiée par l'ONF avec une accessibilité PMR, et donc après vous pouvez faire de la balade en dehors du site des faux dans la forêt de Ménial, mais donc il y a un grand site ONF au-dessus de chez nous.
Et puis,
qui attire beaucoup de monde.
Est-ce que c'est l'occasion pour ceux qui vont voir les faux d'aller faire un tour quand même dans le village ? Parce que le village, c'est un village très accueillant. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour aménager en quelque sorte le bourg.
Ah ben, c'est vrai que Verzy attire encore et de ce fait, on a encore beaucoup de commerce. Et c'est vrai que même si les gens viennent se promener, il y a toujours la boulangerie, il y a un restaurant, il y a une épicerie. On peut encore rester à Verzy la journée, quoi. On peut quand même. Et puis on peut profiter à côté du phare de Verzenay, on ne va pas être chauvin, qui est là pour faire le complément sur le vignoble.
Alors il faut dire aussi qu'il y a des communautés de communes, mais un maire, on le dit à chaque fois, il reste quand même, entre guillemets, le patron dans le village. C'est quand même lui qui est interpellé, en bien ou en mal d'ailleurs, par vos administrés.
Alors oui, même si on est rentré dans ce qui s'appelle le Grand Reims, la communauté urbaine du Grand Reims, logiquement le maire a tout pouvoir sur sa commune. Même si certaines décisions sont prises par le Grand Reims, logiquement, c'est toujours le conseil et le maire qui ont pouvoir. Après, sur les histoires d'administrés, bah oui, c'est toujours le premier magistrat qui est en première ligne à chaque fois, puisque s'il y a des revendications ou des remarques, c'est toujours le maire qui passe en premier. C'est son rôle, on va dire.
On dit souvent que c'est un travail qui est de plus en plus compliqué et que, par exemple, quelqu'un qui a une activité professionnelle, il a bien du mal à conjuguer les deux, le fait d'être maire et le fait d'avoir un métier. Est-ce que, vous êtes peut-être en retraite maintenant, Monsieur Courbeau ?
Je ne vais pas nier. Donc, officiellement, je ne suis pas en retraite, mais j'ai mon fils qui a repris l'activité avec moi en co-gérance. Et donc, c'est lui qui est devenu, on va dire, qui est pour prendre les rênes de l'exploitation. Et donc, j'ai un peu plus, beaucoup de disponibilité.
Vigneron un jour, vigneron toujours ?
Ah oui, non, mais je serai toujours vigneron, mais je ne vais plus à la vigne. Je fais plus de ce qui est comptabilité que de vigne.
En fait, tu es paperasse.
Voilà, c'est ça, on fait ce qui est à côté. Mais c'est toujours vigneron, oui, c'est sûr. Oui.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, c'est une question qu'on pose de temps en temps, est-ce que vous êtes un maire heureux ? Parce qu'on ne peut pas être maire sans passion.
Je pense que oui, si on n'a pas la passion, on n'y va pas, parce que sinon c'est un calvaire, quoi. Alors c'est vrai que ça vous prend du temps, ça peut vous occuper certains week-ends, à certains moments. Mais c'est vrai que si la passion est là, ça passe. On a la chance aussi d'avoir un village qui n'est pas trop demandeur. On n'a pas non plus trop de voyous sur notre commune. Tout se passe bien. Bon, on a des demandes comme tout village, mais ça, c'est quand même un village qui va bien. Et puis c'est vrai que j'ai commencé en tant que simple soldat, je dis toujours, et j'ai appris sur le tas. Et c'est vrai que ça faut se former avant de dire je veux être maire, quoi. Parce que venir être maire comme ça. Je pense qu'il faut se préparer avant, quoi.
Et accepter d'être dérangé. Vos horaires, monsieur le maire, c'est pas, c'est pas 10h midi, 2h, 4h. Hein, c'est aussi bien le week-end, à toute heure, n'importe quand. Et c'est peut-être un petit peu lourd de temps en temps.
Oui, c'est sûr que logiquement, on est 24-24. C'est le tarif. Mais si vous voulez, on peut aussi quand même s'absenter. On a des adjoints pour ça. On délègue aussi quand même. C'est pas non plus pour le maire. Mais c'est vrai que quand on est sur le village, oui, on est censé être 24-24. Après, je pense qu'il y a eu des améliorations vis-à-vis de ça, puisque avant, on avait l'obligation pour accompagner les décès de mettre tout ce qui s'appelait le bracelet. Et c'était, à certains moments, c'était un peu compliqué. Mais ça, les services ont supprimé cette étape et les corps peuvent repartir tranquillement sans que le maire soit présent.
En tout cas, merci, Monsieur Christophe Courbeau. On aura l'occasion de vous retrouver. On le dit à chaque fois, mais d'ici la fin de l'année, on referait bien un petit point parce que Verzy, c'est un lieu de visite, en particulier l'été, le printemps et l'été. Et donc, ça serait l'occasion de reparler de Verzy, de ses faux et de ses vignes.
C'est sûr que le site des faux, à tout moment, il change. Et donc là, il est en période hivernale, mais vous passez au printemps avec le début. Et l'été, c'est pas la même forêt, quoi.
Merci. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Christophe Courbeau, et à bientôt sur RCF. Et
merci Jean-Pierre. Enfin.
Merci à tous les deux. Quant à nous, on passe au journal régional sur RCF. Les titres de ce vendredi 22 mars en commission permanente ce vendredi, le Conseil régional a évoqué plusieurs sujets dont les fonds européens que la région Grand Est a hérité depuis 2014 découvertes. La journée nationale du sport et du handicap est organisée ce samedi par l'association rémoise des étudiants STAPS Focus.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le Conseil régional était réuni à Metz ce vendredi en commission permanente. Au menu, les fonds européens, les transports ou encore l'offre de formation. Sur les fonds européens, un bilan a été fait des programmes 2014-2022 et un état d'avancement du programme 2023-2027. Alexandre Cassaro, conseiller régional délégué aux fonds européens, défend la bonne utilisation de ces fonds malgré des procédures parfois complexes.
Nous sommes d'abord dans la région la plus européenne de France, hein, du fait de notre positionnement géographique en frontière avec 4 autres pays. Nous sommes aussi, sous l'impulsion de notre président, une majorité profondément européenne, attachée à la construction européenne. Et donc, nous ne souhaitons pas envisager les fonds européens comme un simple guichet, mais nous souhaitons vraiment leur donner du sens, faire en sorte qu'il y ait une concordance entre les fonds européens et les priorités régionales. Nous souhaitons aussi démontrer par notre action sur les fonds européens que l'Union européenne n'est pas qu'une technostructure où les décisions se prennent à Bruxelles, mais que les fonds européens permettent véritablement le développement de nos territoires.
Alexandre Cassaro nous explique ce que représentent ces fonds européens pour la région Grand Est.
Depuis 2014, début de l'ancienne programmation, c'est 112 000 projets qui ont été soutenus, ce qui représente plus de 2 milliards d'euros. Ça représente évidemment plus de 10 000 projets par an, 30 projets par jour. Et puis, nous avons d'excellentes performances du côté de la région Grand Est, puisque nous sommes, en termes de consommation des crédits européens, la première région française et nous sommes dans le top 5 des régions européennes. Il faut savoir qu'il y a une particularité avec les fonds européens, c'est que l'argent qui n'est pas dépensé doit être restitué à la Commission européenne. S'agissant de la région Grand Est, nous n'avons eu à restituer aucun crédit. C'est évidemment très positif pour le territoire. Nous avons un taux de conformité des dossiers qui est excellent, qui prouve la rigueur, le professionnalisme de nos équipes.
Alexandre Cassaro, conseiller régional délégué au Fonds européen, au micro RCF de Sébastien Suissy. Pour rappel, la bourse aux vêtements printemps-été de l'Association familiale catholique de Reims aura lieu le vendredi 12 avril dans les salles paroissiales de Saint-André, mais c'est dès maintenant que l'on s'inscrit. Attention, il s'agit uniquement de vêtements pour enfants ainsi que d'articles de puériculture et livres-jeux pour enfants. Pour s'inscrire, il suffit de contacter l'équipe d'organisation sur la boîte mail dédiée bourse.afc51@gmail.com. Les articles seront à déposer la veille, soit le jeudi 11 avril. 10% du fruit de la vente est déduit pour les adhérents, 30% plus 2 euros pour les non-adhérents. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous inscrire, l'adresse mail bourse.afc51@gmail.com. Qui dit week-end dit sport, et on commence par présenter un événement exceptionnel. La 12e journée nationale du sport et du handicap est organisée ce samedi de 9h à 17h sur l'esplanade Porte de Mars à Reims par l'association rémoise des étudiants en STAPS. Charline et Alban, étudiantes en deuxième année, nous présentent ce rendez-vous.
C'est un événement qu'on organise qui est un projet porté par l'ANESTAPS, donc l'Association nationale des étudiants en STAPS, et que nous, du coup, on organise sur notre territoire. C'est un événement qui relie plein de clubs sportifs pour montrer des activités sportives et qui est ouvert à tout public. Donc c'est un événement très inclusif parce que tout le monde peut tester tous les sports.
On va retrouver deux villages, un village d'activité et un village partenaire. Donc dans le village d'activité, on va retrouver par exemple le basket fauteuil, l'escrime ou encore le tennis ou le volet assis, où tout le public pourra y participer, et un village partenaire, où du coup ils auront un stand où ils pourront parler de leur activité, comme l'andinat, le FSRA, ou encore le tennis aussi, et on aura aussi également une association, l'Enfance Lime & Co, qui pourra aussi parler de leur association. À 16h45, on aura une initiation à la natation artistique à la piscine d'Orgeval, jusqu'à 17h15, et à 17h30 et à 17h45, on aura une démonstration de solo par deux filles, Elsa et Louison. Et par la suite, il y aura peut-être une cohésion entre les personnes qui ont pu faire l'initiation et les nageuses de natation artistique.
Cette journée est ouverte à tous, petits et grands, sportifs ou non, entrée gratuite et évidemment, l'événement est accessible aux personnes en situation de handicap. Place à l'agenda des rencontres sportives pour nos principaux clubs. Agenda allégé par la trêve internationale de football masculin. Chez les femmes, Reims se déplacera au Havre pour la 18e journée de D1 Arkema, samedi à 14h30. En basket, les rendez-vous, c'est dès ce soir, 20h. Chalon-Reims reçoit Antibes au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Châlons-en-Champagne pour la 25e journée. Dans le même temps, 20e journée de Ligue féminine, les Flammes Carolo se déplacent à Bourges. Enfin, il y aura du volley samedi avec la dernière journée de la phase régulière. Chaumont, assuré de terminer leader, se déplace sur le parquet de Saint-Nazaire. Évidemment, on termine le journal avec la page météo de Marion Yernard, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Alors, quel temps pour ce week-end en Champagne-Ardenne?
Les températures descendent pour ce samedi 23 mars avec 7 degrés dans la matinée pour toute la région et des petites averses entre quelques rayons de soleil. Dans l'après-midi, nous aurons 10 degrés au maximum sur tout le territoire avec un temps qui restera le même que dans la matinée. Dans la soirée, le soleil partira pour laisser place aux nuages et à la pluie. Samedi, nous fêterons les Victoriens. Passons au dimanche 24 mars avec des températures qui ne remonteront pas non plus. Dimanche, nous aurons 8 degrés dans la matinée ainsi que de la pluie et des éclaircies dans les Ardennes, l'Aube et la Haute-Marne. Dans la Marne, il y aura du soleil le matin. Dans l'après-midi, ça sera un mélange de soleil et de pluie sur tout le territoire. Dans la soirée, toutes les régions auront du soleil. Dimanche, nous fêterons les Catherines. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Marion et on se joint à vous pour souhaiter une bonne fête en avance donc aux Victoriens ce samedi, aux Catherines ce dimanche. Et avant de vous laisser filer, même si vous êtes avec nous jusqu'à 19h évidemment ce vendredi, quel est le programme du week-end Marion? On a dit tout à l'heure en teasing que vous faisiez un petit peu la fête ce soir. Vous fêtez un anniversaire?
Oui, c'est l'anniversaire d'Auxence.
Qui est Auxence?
Auxence est mon meilleur ami depuis plus de 2 ans maintenant.
Eh bien, on vous souhaite une très belle soirée, de bien faire la fête, et puis reposez-vous bien, parce que la semaine prochaine, le programme est chargé, avec notamment la Semaine Sainte sur les ondes de RCF. Vous aurez l'occasion de suivre la messe chrismale sur RCF Reims-Ardennes pour le diocèse de Reims et des Ardennes mardi soir. Dans le diocèse de Châlons sur RCF Cœur de Champagne, la même opération évidemment est conduite. Et puis, il y aura tout le Triduum Pascal, vous savez, qui sera célébré depuis le monastère Saint-Thierry dans le diocèse de Reims et des Ardennes sur les ondes nationales de RCF. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne. Continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Deuxième partie d'émission où l'on va faire plusieurs découvertes et d'abord l'une à l'occasion du 12e salon Destination Marne. C'était le week-end dernier au Capitole de Châlons-en-Champagne. Jawed et Christopher sont partis à la rencontre de Frédérique Pinchon, directrice d'un lieu incontournable dans le département de la Marne, le phare de Verzenay.
Verzenay, c'est un très beau coin. Alors, vous connaissez très certainement comme moi les Fauts de Verzy. Bien, tout autour, il y a de nombreuses communes et l'une d'elles, c'est Verzenay qu'on peut voir sur l'autoroute, véritablement sur, quasi presque à l'horizon. Alors, le phare de Verzenay, puisque oui, il y a un phare. Il y a des millions d'années, il y avait la mer dans le coin et on a eu le temps de construire un phare. Mais je crois que notre invité va pas nous dire ça.
Frédérique Pinchon, directrice du phare de Verzenay. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Parlez-nous justement de, eh bien, de ce lieu. Qu'est-ce que vous y faites?
Alors aujourd'hui, c'est un musée.
Musée,
mais
d'accord.
Effectivement, le phare a été érigé en 1909 par un négociant en vin qui l'a érigé pour promouvoir sa marque de champagne. Donc sur le site, il y avait un restaurant, une guinguette, un théâtre de plein air et Rémois Parnassien, Chalonnais aussi, venaient sur le site et bien boire le champagne. Joseph Goulet, c'est un champagne qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était vraiment un lieu de fête où il fallait être à cette époque. Alors, ça n'a pas duré très longtemps puisque le phare a été en partie détruit pendant la Première Guerre mondiale, puis laissé à l'abandon pendant de très nombreuses années jusqu'en 1999 où le musée de la vigne a ouvert ses portes.
Mais pourquoi un phare ?
Eh bien, le Joseph Goulet donc, disait qu'il voyait devant lui une mer de vignes. Et donc, il avait certainement l'esprit très poétique et il a décidé d'y mettre un phare.
Est-ce qu'on peut donner un petit avant-goût, si je peux dire, de ce musée ?
Bien sûr. Alors, c'est une déambulation, en fait, qui se fait en visite libre, audio-guidée en 5 langues, et qui va présenter toutes les particularités et l'histoire de la Champagne. Donc, c'est une visite qui dure environ 1h30, avec des vidéos, avec une maquette, avec des outils anciens, bien sûr, mais pas que, c'est vraiment une toute petite partie du musée, hein, les outils et les costumes anciens. C'est une visite qui est assez moderne, en fait. Et voilà, les gens découvrent au fil de cette visite ce qu'est la Champagne. Comment est né le champagne en Champagne? Pourquoi est-ce qu'on fait du champagne en Champagne? Voilà. C'est un point de départ, en fait, d'une visite en Champagne, oui. Puisqu'on présente ce qu'est le territoire de Champagne.
En plus de ce musée, il y a des petits événements qui s'organisent tout au long de l'année. Comment
oui,
ça se passe?
Oui, oui. Alors, nous organisons cette année encore, à partir du 23 juin, des concerts pique-niques chaque dimanche.
Super.
Donc, ils sont gratuits. Il suffit de réserver, puisque voilà, les concerts se déroulent dans le jardin et les places sont limitées.
Oui.
Donc il suffit de réserver, d'apporter son pique-nique et de se détendre et d'écouter la musique qui est proposée.
Ah, c'est génial. C'est vrai qu'il y a de très belles activités.
Oui.
C'est un joli coin. On a une très belle vue, c'est vrai, sur l'ensemble de ces coteaux et puis de cette belle plaine de Champagne, parce qu'on voit aussi les belles plaines de Champagne.
Oui, tout à fait. Et on voit la cathédrale de Reims depuis le haut du phare.
Le phare de Verzenay, avec ce musée et ses activités tout autour, notamment dégustation, concert, pique-nique, on vient de le dire, hein, fin juin. Oui. À 15 minutes de Reims, pour plus de renseignements,
le site internet, bien sûr, www.phare-verzenay.com. Et puis vous pouvez également appeler, hein, nous sommes ouverts. Alors en ce moment, on est ouvert tous les jours sauf les lundis. On ouvre à partir du 1er avril tous les jours, même le lundi, de 10h à 18h30.
Je tiens à préciser, ça vaut vraiment le coup, le phare de Verzenay. Je connais un petit peu le coin, parce qu'il y a les faux de Verzy, c'est-à-dire que vous pouvez venir beaucoup plus tôt dans la journée, profiter des belles promenades de Verzy, mais pas que, parce que dans ces faux de Verzy, vous pouvez faire du tourisme de mémoire, parce que la Première Guerre mondiale a laissé des traces, il y a des beaux points culminants de cette Première Guerre mondiale, qui est aussi autour de ce phare, et puis, à ce moment-là, venir au phare et avoir ces belles exploits et cette belle découverte dégustative autour du champagne.
Merci Frédéric Pinchon.
Merci à vous.
Directrice du phare de Verzenay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À partir du 1er avril, le phare de Verzenay vous invite à la découverte de la Champagne, son histoire, ses vignerons, son patrimoine et ses légendes. Infos et réservations sur le site phare-verzenay.com.
Le 18-19 sur RCF.
On l'a dit à la fin du journal régional, il y a un certain nombre de rendez-vous diocésains qui arrivent bien évidemment à l'occasion de la Semaine Sainte, la semaine prochaine, et vous le savez, le vendredi, en alternance tous les 15 jours avec l'archevêque Mgr Éric de Moulin-Beaufort, on retrouve l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Étienne Véteux, qui était l'invité de Jean-Pierre ce matin sur RCF Reims-Ardennes pour balayer à la fois l'actualité nationale, mais aussi l'actualité locale dans notre diocèse.
Monseigneur Étienne Véteux, bonjour, vous êtes en direct de Lourdes. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent.
Alors c'est vrai que vous participez à l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les quelques thèmes qui ont été abordés en général?
C'est un moment très riche, on a parlé de pas mal de thèmes importants. Probablement le fil conducteur a été celui des acteurs de la mission. En novembre, nous avions parlé à la précédente assemblée plénière, nous avons parlé de la mission. Et là, c'est plutôt les acteurs de la mission, les diacres, les laïcs avec différents ministères pour soutenir les prêtres. Et puis les moyens de la mission, la radio et la télévision chrétienne, l'école catholique par exemple. Mais nous avons aussi parlé du projet de loi sur la fin de vie, nous avons parlé de l'anniversaire du Concile de Nicée qui aura lieu en 2025 et l'année jubilaire par exemple.
Et puis évidemment, Monseigneur, une déclaration sur le projet de loi sur la fin de vie.
Oui, ce projet est vraiment un grand souci pour nous. L'Église est concrètement sur le terrain, proche de ceux qui souffrent, et elle a une immense attention pour les personnes en grande souffrance, mais elle veut apporter la vraie fraternité, le vrai soulagement de la souffrance. Et c'est incroyable que ce projet de loi sous le nom de fraternité. N'est-il pas plus fraternel d'offrir une fin de vie bien accompagnée plutôt que de l'interrompre par un geste létal? Et n'est-il pas plus humain de soulager la souffrance que de mettre fin à la vie? Ouais, l'Église insiste vraiment sur le fait qu'il faut un développement des soins palliatifs plutôt que d'essayer de mettre fin à la vie.
Monseigneur, cette assemblée se poursuit. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Mais comment avez-vous vécu ces moments intenses avec tous les évêques de France rassemblés?
C'est un très beau moment. C'est un moment de grande fraternité entre les évêques, de soutien, un moment de prière aussi. Le lieu Lourdes est magnifique pour ce genre de rassemblement. C'est un lieu de prière avant d'être un lieu de travail. C'est un lieu où on peut confier l'Église de France à la Vierge. Et puis on est touché du fait de prier au milieu du peuple de Dieu, de personnes de tout genre qui viennent chercher un secours auprès de Dieu avec beaucoup de foi.
Alors, il faut dire que vie fraternelle, prière, elle va d'ailleurs se prolonger, il va y avoir le chemin de croix, vous avez aussi...
Vous avez raison, Jean-Pierre, oui. Au milieu de nos quelques jours ici, il y a eu un très beau chemin de croix pour la paix, et notamment, alors nous avons prié pour la paix en Israël, à Gaza, nous avons prié pour la paix entre l'Ukraine et la Russie, et deux des méditations ont été préparées par Mgr Rafik Nara, qui est l'évêque auxiliaire du patriarche latin de Jérusalem.
Évidemment, ça se poursuit d'ailleurs dans quelques temps, dans quelques minutes, vous allez vous retrouver à la basilique à Lourdes. Alors si on revient dans notre diocèse, dimanche prochain, Monseigneur, c'est le dimanche des rameaux. Alors il y a un certain nombre d'événements, je crois, dans les Ardennes, il y a une mission qui se met en route.
Oui, il y a plusieurs événements, je pense, qui concernent les jeunes pour ce dimanche des rameaux. Par exemple, à Mouzon, dans les Ardennes, à Daltoum, l'aumônerie des étudiants et des jeunes pros du diocèse, vont offrir une mission et les jeunes sont accueillis par les paroissiens et vont avec les paroissiens en mission. Donc c'est très dynamisant pour l'Église. Et puis bon, à Reims, par exemple, à la messe des rameaux à Saint-Thomas, dans Reims-Nord, il y aura un rassemblement de scouts et de guides de France. Donc j'ai la chance de pouvoir présider, célébrer cette Eucharistie. C'est la troupe du Sacré-Cœur. On attend 110 jeunes et encadrants.
Ça, c'est pour les rameaux. Et puis, la semaine prochaine, Monseigneur, on va y être très, très bientôt. C'est le début de la Semaine Sainte qui préfigure l'importance. C'est un sommet de la vie chrétienne, de la vie liturgique, les fêtes de Pâques, évidemment.
Oui, bon, déjà les rameaux, c'est l'entrée dans cette Semaine Sainte. Et c'est vrai que je parlais des scouts et des guides de France. C'est frappant de voir ces jeunes qui s'engagent au service de jeunes plus jeunes, pour les faire grandir, ça ouvre en responsabilité, ça fait mûrir. Donc là, pour les rameaux, on célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem, à la fois un moment de joie, mais aussi le moment où il va vers sa passion, et donc il y a cette longue lecture de la passion. Et puis, le reste de la semaine, c'est la semaine la plus importante pour un chrétien. Le mardi, il y aura la messe chrismale, où les prêtres et les diacres du diocèse entoureront l'évêque et tous ceux qui veulent venir pour renouveler leurs promesses, leurs vœux, puis avec la bénédiction des huiles qui seront utilisées pendant l'année pour les catéchumènes, les malades, les confirmations. Et puis la semaine termine par le moment fort, le jeudi saint, commémoration de la scène du Seigneur, le vendredi saint, commémoration de la passion, la mort de Jésus, et puis la vigile de Pâques et la messe de Pâques, donc le samedi soir et le dimanche, où nous célébrons la résurrection, la victoire de Christ sur la mort.
Il faut dire aussi qu'on en a beaucoup évoqué également avec vous, il y a les catéchumènes pendant cette semaine et pendant la nuit pascale en particulier.
Oui, ici à Lourdes, par exemple, entre évêques, on peut dire que même si on aborde des thèmes graves, des difficultés, il y a toujours une note d'espérance et de joie quand nous parlons des catéchumènes. Tous les diocèses de France ont vu se multiplier les catéchumènes. On a vraiment l'impression que c'est un don de Dieu, les catéchumènes adultes qui nous viennent. À Reims, ils sont 72 cette année. C'est presque le double de l'année précédente. Ils vont être baptisés à la nuit de Pâques. C'est réjouissant de voir que même quand, d'un point de vue humain, nous avons du mal parfois à savoir vers où va l'Église, nous goûtons très très concrètement l'aide de Dieu, le soutien de Dieu à cette Église.
C'est l'occasion de rappeler que ces baptêmes, Monseigneur, ont lieu à la cathédrale pour certains, mais dans les espaces missionnaires plutôt.
Tout à fait, vous avez raison, c'est très important. En fait, chaque espace missionnaire a préparé des catéchumènes et nous en avons sur tout le diocèse. Pour ma part, j'ai la chance de pouvoir aller à Saint-Remy. Donc je pourrais baptiser ceux qui auront été préparés dans cet espace de Reims Sud.
Alors il faut dire également que nous allons nous-mêmes, bon, sur RCF modestement, mais nous retransmettons cette messe chrismale pour celles et ceux qui ne peuvent pas y aller. On invite tout le monde, bien sûr, Monseigneur, à venir à 18h30 à la cathédrale. Ce sera mardi. Et puis nous aurons aussi, nous, des programmes qui nous viennent d'ailleurs, qui seront diffusés sur l'ensemble du réseau RCF.
Oui, un grand merci d'ailleurs à RCF. Pour permettre à ceux qui, par exemple, ne pourraient pas aller à l'église pendant cette semaine, de pouvoir suivre à la fois des émissions dédiées à Pâques ou à la Semaine Sainte, soit préparées au niveau local, soit ce qu'on appelle la halte spirituelle, du lundi au vendredi, tous les jours, et il y aura une méditation sur la Semaine Sainte. Et puis, tous les ans, RCF National retransmet les offices de la Semaine Sainte à partir d'un lieu donné en France. Et cette année, le diocèse a cette chance que il s'agit de notre diocèse, il s'agit de l'abbaye de Saint-Thierry chez les sœurs bénédictines. Donc nous pourrons suivre les offices des sœurs bénédictines à partir d'RCF.
Merci Monseigneur et à bientôt sur RCF. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Merci Monseigneur Étienne Véteux, merci Jean-Pierre. L'occasion de souhaiter justement une très bonne Semaine Sainte à tous nos auditeurs.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Pour les dernières minutes à passer ensemble ce vendredi soir, on part à la ferme des Crayères à Fère Champenoise. À sa tête, Émilie et Romain, un jeune couple passionné de pommes de terre. L'exploitation propose pas moins d'une trentaine de variétés. Notre correspondant Jérôme Gorgeau est parti à leur rencontre.
Émilie Roux, bonjour.
Bonjour.
Et d'un autre côté, on a Romain Gondon.
Bonjour.
Bonjour. Un couple hein, dans la vie aussi, on peut le dire, hein, à Fère Champenoise. Et on a deux passionnés de pommes de terre. C'est la ferme des Crayères où nous nous trouvons. Expliquez-moi un peu, vous avez quel âge, si je ne sais pas, une scrape. En tout cas, on va demander pour Romain déjà. En tout cas, quel âge vous avez, à peu près la trentaine, je dirais.
Alors, effectivement, oui, je viens de fêter mes 30 ans cette année.
Voilà, on sent de la jeunesse. Et moi, je trouve ça extraordinaire. On a des jeunes gens. Et on voit que vous êtes passionnés. Et on est sur Fère Champenoise, donc quand même, on n'est pas une mégalopole. Et on sent vraiment que vous adorez ce que vous faites. Vous m'avez mis sur la table vos différents produits, on va en parler, mais on sent que là, il y a de la jeunesse et qu'il y a de l'énergie. Comment la ferme des Crayères a vu le jour ?
À l'origine, j'ai lancé la production de pommes de terre il y a maintenant 5 ans sur l'exploitation.
Vous aviez que 25 ans alors ?
J'avais que 25 ans, effectivement.
Ouais, c'était quand
à 25
même assez,
ans, sortie d'études.
C'est de famille ou pas du tout ?
Tout à fait, une passion qui m'est venue de mes parents, de mes grands-parents, donc qui se transmet de génération en génération. Et donc voilà, étant né en exploitation agricole et ayant vécu toute ma jeunesse et mon enfance en exploitation agricole, la passion s'est transmise. Et
vous, Émilie, vous êtes rentrée à quel moment dans la
ville ? Alors moi, je suis arrivée il y a un an, enfin même pas, le 1er avril 2023. Et donc Romain avait envie de promouvoir sa production en créant sa marque à destination de la grande distribution. Et donc, il me voyait bien faire ça. Et moi, pour être complètement transparente, j'étais dans le notariat avant. Donc, rien à voir.
C'est rigolo. Donc, oui, avant, voilà. Des profils.
Et je m'amusais un peu moins là-dedans. Donc,
mais la pomme de terre, ça, on arrive à faire rêver une jeune femme avec de la pomme de terre. Il vous dit la pomme de terre en avant. Vous dites
ça me donne la patate. Hein,
voilà. Ah, excellent. D'accord. Et donc, on essaie de faire un jeu avec la frite tout à l'heure, si on y pense. Pourquoi d'abord la pomme de terre? Et puis, je dirais... pourquoi ici ?
Alors, pourquoi la pomme de terre ? Alors déjà, ma famille était déjà dans la production de pommes de terre historiquement. Et j'ai toujours, depuis mon plus jeune âge, eu cette sensibilité, cette passion pour cette culture qui finalement est assez différente des cultures classiques de la région, puisque nous sommes d'une région de production céréalière, betteravière. Mais la pomme de terre, c'est une culture particulière qui demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de soins.
C'est quoi la taille de production ici ? Enfin, la pomme de terre, il y a quand même une pomme de terre qui sort d'ici. Enfin, je ne sais pas comment que ça se quantifie.
Bien sûr. Alors nous, on va parler en tonnes. Hein,
en tonnes ?
En tonnes. Donc, on est sur une production annuelle de 10 à 12 000 tonnes.
Ah là, c'est énorme. Alors, de plusieurs pommes de terre différentes. Parce qu'ici, on produit de tout.
Bien sûr. Donc, on a une gamme d'environ 30 variétés. 30. Donc, 30 variétés de tout type, c'est-à-dire des pommes de terre en fonction des segments d'utilisation culinaire, des pommes de terre à peau jaune, à peau rouge, calibrées différemment, segmentées en frites, en fours, en utilisation vapeur, rissolée. En fait, voilà, on a une variété, on a des variétés qui correspondent à chaque utilisation, chaque créneau, en fonction de l'utilisation qu'on souhaite en faire.
Je reviens à Émilie parce que c'est intéressant. Émilie, à un moment donné, vous avez dû vous y mettre. Vous, je veux dire, le notariat, la pomme de terre, je vois pas bien là le lien. Hein, vous aviez pas forcément cette culture-là au départ.
Non. Après, moi, je suis pas dans les champs et je suis. Je m'occupe de toute la partie commerce. Donc en fait.
Ah oui, ça vous oblige à connaître le produit. Vous avez dû un peu potasser parce que
ouais,
là,
ouais.
30 variétés différentes.
Non,
Romain, on appuie ce bouton, ça part tout seul, bien sûr. C'est il est né dedans, si j'ose dire.
C'est ça. Bah après, Bon, en réalité, quand on s'intéresse un peu aux choses, c'est pas si compliqué que ça. Mais moi, c'était surtout la dimension commerciale qui me plaisait et qui m'amuse vraiment aujourd'hui. Et puis, c'est tellement excitant de développer sa marque et de voir qu'elle rayonne et de la développer. Et c'est ça qui est hyper chouette.
Romain, vous sentez quand même là que depuis l'arrivée d'Émilie, il y a un mieux?
Bien sûr, il y a un mieux déjà.
Faites attention à ce que vous dites là, oui.
Bien sûr. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, on a un but commun. Et en fait, avancer ensemble dans la même direction avec des objectifs que nous construisons à deux, c'est quand même une formidable aventure. Et oui, effectivement, ça redonne un dynamisme, ça redonne une envie d'évoluer, d'avoir toujours de nouveaux projets. Et c'est vrai que c'est un bel accomplissement.
Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Encore d'autres variétés, toucher d'autres marchés?
Moi, en tout cas, à l'échelle commerciale, purement et en grande distribution, c'est de se développer encore plus loin, plus large, parce qu'aujourd'hui, on livre à peu près une cinquantaine de supermarchés dans un rayon de 100 km autour de la ferme, toutes enseignes confondues, donc à Reims, Dormant, Troyes, Saint-Dizier, Vitry-le-François, en gros, pour situer. Oui, oui. Et l'idée, après, c'est de s'étendre encore un peu plus, quoi. Donc,
voilà,
oui, bon, en à peine un an, c'est déjà... très prometteur et on est hyper content.
On a de la pomme de terre de Fère Champenoise et on s'appelle la ferme des Crayères. Je devine un peu pourquoi, mais pourquoi ça s'appelle la ferme des Crayères?
Eh bien, tout simplement parce que le chemin qui mène à l'exploitation, ça s'appelle le chemin, la rue des Crayères, voilà. Donc, qui a donné son nom à l'exploitation et donc à la marque que nous vous présentons aujourd'hui.
Et la ferme est aussi implantée sur des anciennes crayères, historiquement.
Effectivement, voilà. Ouais. Pourquoi aussi? Parce que finalement, la rue, c'est une chose, mais la rue a son histoire. Et en fait, nous siégeons actuellement sur d'anciennes crayères. Donc, à l'époque, des denrées alimentaires, notamment, étaient placées directement dans la craie. Parce qu'ici, nous avons un terroir de craie, c'est-à-dire que nous avons 30 cm de terre. Et sous cette terre, de la craie pure, de la craie blanche, la même craie que vous utilisez quand on écrit au tableau. Et cette craie, en fait, elle garde une hygrométrie et une température constante toute l'année.
Dont
et
vous donc, profitez dans votre culture.
Dont nous profitons, effectivement.
La plaine de Fère Champenoise a cette richesse, quoi.
Tout à fait. Et c'est dans ce texte, c'est un super territoire, un super terroir pour la pomme de terre, qui nous permet d'avoir des tubercules de qualité, sains. Puisqu'en fait, on a la chance d'avoir un type de sol qui capte tous les excès d'eau. Donc en fait, nos pommes de terre respirent et n'est pas soumis à certains aléas climatiques qui sont d'ailleurs malheureusement de plus en plus présents. Et c'est grâce à ces spécificités du terroir que nous arrivons notamment à avoir de jolies pommes de terre, de bonne conservation.
Ouais, elles sont magnifiques, elles sont belles, elles donnent faim. Mais trentaine de variétés, l'idée c'est d'en rajouter encore ou pas? Ou déjà de faire vivre celles qui existent déjà? Parce que 30 c'est beaucoup. On arrive vraiment à faire vivre 30 variétés, c'est quand même c'est énorme. Ça me paraît énorme.
C'est effectivement important. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de chaque utilisation, il y a par exemple des variétés de plus ou moins longue conservation, des variétés qui vont vous faire une proportion de petits ou de gros tubercules différents. Donc en fonction d'une frite, vous voulez forcément des tubercules assez longs pour avoir forcément de belles longues frites, bien dorées, bien croustillantes. Nous avons par exemple des pommes de terre grenailles, là on cherche des pommes de terre de petits tubercules. Après, on a aussi des attentes de certains... chaque consommateur a sa sensibilité. On a par exemple une clientèle qui aime beaucoup les pommes de terre à peau rouge parce qu'il y a une connotation d'utilisation particulière. D'autres finalement qui vont aller chercher une pomme de terre assez ronde parce qu'elle va avoir une forme facile à éplucher. Enfin voilà. Vous avez, en fait, il y a tellement d'utilisation, de possibilités de stockage, de conservation des pommes de terre qui vont plus ou moins germer. Enfin voilà. Ce panel de 30 variétés est très vite atteint. Et pour répondre à votre deuxième interrogation, l'objectif, non, n'est pas aujourd'hui d'avoir une gamme variétale encore plus large. Par contre, de faire évoluer, pourquoi pas, nos types de conditionnement, nos tailles de conditionnement. Par exemple, on peut parler d'un nouveau projet qui est tout à fait en train de se concrétiser actuellement, c'est que nous allons lancer le sachet micro-ondable pour nos pommes de terre.
Ça, c'est un scoop que vous nous donnez, là.
Effectivement,
Là,
nous vous mettons dans la confidence, effectivement,
excellent.
D'un nouveau projet qui va très, très vite voir le jour.
Oui, très bientôt, d'ici quelques semaines.
Bah, écoutez, vraiment, on a vraiment beaucoup de plaisir à s'intéresser à vos produits, puis à les voir un peu évoluer. Donc maintenant, vous regarderez dans les commerces autour, Ferme des Crayères. Vous voyez des pommes de terre marquées Ferme des Crayères. Vous savez, c'est des jeunes qui se donnent du mal, qui savent vraiment de quoi ils parlent, qui mettent beaucoup d'énergie et de passion et qui continuent d'évoluer dans leurs produits et dans leur façon de faire. Donc, vous penserez à Émilie, vous penserez aussi à Romain. Voilà, la Ferme des Crayères. Je vous remercie infiniment.
La ferme des Crayères, située à Fère-Champenoise, dans le sud-ouest marnais, une interview à réécouter en podcast sur notre site rcf.fr. Ainsi se referme ce magazine régional. Ce soir, on se retrouve lundi, 18h10, pour le magazine régional, bien évidemment. Mardi soir, ça sera un petit peu spécial. Ça sera notamment la messe chrismale qui sera diffusée dans le diocèse de Reims et des Ardennes sur RCF Reims-Ardennes, dans le diocèse de Chalon sur RCF Cœur de Champagne. On annoncera d'autres rendez-vous au fil de la semaine et des prochains jours. Les programmes locaux de RCF continuent de vous accompagner tout au long du week-end en local. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Merci pour votre fidélité.